L'utilisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier.
Salut toutes et tous, vous êtes en direct sur Radio Méga Valence, en différé à RDOA à Die, et Radio La Web Radio basée à Diolfi. Atomic Mac est une émission antinucléaire mensuelle réalisée par l'association Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche. Dans cette émission, nous allons aborder le nucléaire à marche forcée décidé par notre président et tout un tas d'oligarques. Pour cela, nous avons invité, nous, des gens qui ne sont pas oligarques d'ailleurs, Roland Desbordes, porte-parole de la CRIRAD, pour le démarrage de l'EPR et d'autres autres bricoles, en compagnie de Dominique, et Benoît Verza, ambassadeur de l'association Négawatt. Négawatt a pensé un scénario alternatif et rationnel pour sortir du nucléaire et d'une société décarbonée. Nous vous saluons, auditrices et auditeurs fidèles des Radios Libres. Dominique, Jean-Pierre, Gérard, Kim et Georges sont aux manettes. L'équipe Atomic Mat est complète. Georges, tu débutes avec ta rubrique.
Oui, mon billet Atomic Mac. Bonjour auditrices et auditeurs. Deux sujets dans ce billet. Toujours la centrale de Fukushima et un point sur la situation de la centrale de Zaporijjia. Alors l'évolution à Fukushima, d'après Associated Press, le 29 mai. TEPCO prévoit de déployer un robot à tube extensible de type Telesco dans le réacteur numéro 2 de Fukushima Daiichi pour tester l'élimination des débris de son enceinte de confinement primaire d'ici octobre. Ces travaux accusent un retard de plus de 2 ans. L'évacuation du combustible fondu était censée commencer fin 2021, mais a connu des retards soulignant la difficulté de se remettre du séisme de magnitude 9 et du tsunami de 2011. Lors de la démonstration au chantier naval Mitsubishi Heavy Industries de Kobe, dans l'ouest du Japon où le robot a été développé, un appareil équipé de pinces est descendu lentement du tuyau télescopique jusqu'à un tas de gravier et a ramassé un granulé. TEPCO prévoit d'éliminer moins de 3 grammes de débris lors du test effectué à la centrale de Fukushima. Nous pensons que le prochain test d'élimination des débris de combustible de l'unité 2 est une étape extrêmement importante pour mener à bien les futurs travaux de déclassement, a déclaré le responsable du groupe TEPCO pour le programme de récupération des débris de combustible. Il est important de procéder au test du retrait de manière sûre et régulière. Environ 800 tonnes de combustible nucléaire fondu hautement radioactif reste à l'intérieur des 3 réacteurs endommagés. Les critiques estiment que l'objectif de nettoyage de 30 à 40 ans fixé par le gouvernement et TEPCO pour Fukushima est trop optimiste. Les dégâts dans chaque réacteur sont différents, donc une meilleure compréhension des débris de combustible fondus à l'intérieur des réacteurs est essentielle à leur déclassement. TEPCO a déployé 4 mini-drones dans la cuve de confinement primaire du réacteur numéro 1, plutôt cette année pour capturer des images des zones où les robots n'avaient pas atteint. Zaporijjia, d'après Midi Libre du 28 mai, les forces russes occupent la centrale depuis le début de ce que la Russie appelle son opération militaire en Ukraine, et les 6 réacteurs ne sont pas opérationnels. Selon l'agence de presse russe TASS, Raphaël Grossi, chef de l'AIEA, a eu plusieurs entretiens avec une délégation de Rosatom dans la ville russe de Kaliningrad, au cours desquels il a déclaré avoir trouvé un accord à propos de la sécurité de la centrale. Toujours d'après TASS, le chef de Rosatom, Alexei Likachev, a souligné l'importance de la sécurité de la centrale et indiqué que son redémarrage n'était pas à l'ordre du jour pour le moment. Greenpeace, citant des documents soumis par Rosatom à l'AIEA à la mi-mai, avait averti que la Russie prévoyait de redémarrer la centrale, la plus grande d'Europe, ce qui pourrait entraîner une escalade sans précédent, selon l'ONG. Enfin, d'après Michael Mangeon, le 24 mai sur LinkedIn, les 6 réacteurs sont en arrêt à froid et ne produisent pas donc de chaleur vapeur. 2 chaudières diesel sur 9 assurent actuellement les besoins en eau chaude du site. Il reste une seule ligne, parfois perdu pour quelques heures de 700 kV sur 4 avant le conflit en fonctionnement et une ligne de secours de 380 kV. Sur le fonctionnement du système refroidissement en eau du site, les suivis réguliers montrent une forme de stabilité du niveau d'eau depuis de nombreux mois dans les différents canaux et dans le bassin de rétention. Sur les besoins en eau, il y a toujours la problématique à long terme du réservoir de Kakova, en partie à sec depuis la destruction dans la nuit du 6 juin 2023 du barrage électrique de Kakova sur le Dniepr. Et sur la maintenance, les travaux ont été souvent reportés, mais l'AIEA note par exemple que le nettoyage des bassins fontaines et les travaux sur des transformateurs électriques sont réalisés ou en cours de réalisation.
Merci Georges, et maintenant retournons en France où, comme on le disait tout à l'heure, avec 12 ans de retard et un budget quasiment multiplié par 5, l'EPR de Flamanville est normalement prêt à être mis en service. EDF a commencé à charger le combustible dans le cœur du fameux réacteur. Or, on sait que le couvercle devra être très rapidement changé, en fait, dès le premier rechargement. Est-ce bien raisonnable ?
Oui, tout le monde sait, connaît en gros la saga de l'EPR de Flamanville. On sait que malgré tous les défauts qui ont été soulevés en cours de construction, ça va le couvercle comme tu l'as dit, mais il y a le fond de la cuve, il y a des combustibles qui ne sont pas adaptés au contexte, et ça on le sait grâce à l'EPR de Taishan en Chine, que certains combustibles ne pouvaient pas être mis dedans. Enfin, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été traitées en cours de route, et on est passé au-delà. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est la marche forcée, puisque les combustibles fabriqués à Romans, dans la Drôme, certains ont dû revenir à Romans parce que non conformes avec le contexte actuel, comme j'expliquais avant. Et malgré tout ça, eh bien, on va sans doute, parce que ce n'est pas fait, donner le feu vert. Or, même selon la SN, il y a encore des tas d'autres choses qui n'ont pas été traitées, des documents qui n'ont pas été fournis.
Pourtant, la SN a donné le feu vert.
Alors, pour l'instant, la SN n'a pas donné le feu vert sur appuyer le bouton démarrage. Elle a appuyé sur le bouton « vous pouvez mettre le combustible dedans ». Voilà.
D'accord.
Il faut savoir qu'il y a tout un tas de points d'arrêt avant de démarrer un réacteur nucléaire. C'est normal. Parce que c'est pas comme démarrer une voiture, hein. Donc il y a tout un truc. Et on sait que par exemple l'EPR le plus proche de nous en Finlande, qui a officiellement démarré il y a maintenant pratiquement 2 ans, il n'est toujours pas à sa pleine puissance. Il a été arrêté plein de fois en cours de montée en puissance. Donc on n'est pas encore, je dirais, à la pleine puissance de l'EPR de Flamanville. En tout cas, et puis effectivement, il y a cette menace du couvercle. Alors là, EDF a obtenu de la part de l'ASN la possibilité de ne pas le changer tout de suite, ce couvercle. C'est-à-dire, on attendra un peu. Bon, or, tout montre que c'est une très grave erreur, parce que ce couvercle sera radioactif, et il faudra, ça fera du déchet en plus. Et puis bonjour pour les travailleurs qui vont travailler là-dedans, hein.
Bon, le feuilleton n'est pas terminé, si on te comprend bien.
Sans compter le coût du couvercle.
Alors, ça, je n'ai pas les chiffres, effectivement.
Oui, mais c'est des centaines de tonnes.
Hein. Ah oui, oui, ça, c'est pas une pièce de vélo. Hein.
Alors, passons à un deuxième point qui montre la reprise plein pot du nucléaire. C'est le rachat à General Electric des turbines Arabelle pour permettre à la France d'être autonome donc dans ce domaine du nucléaire si sensible. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors ça, c'est encore une turpitude du nucléaire en France. Il y en a plein comme ça. C'est-à-dire qu'on avait un fleuron de l'industrie qui était les turbines Arabelle à Belfort. Et à un moment donné, il y a une dizaine d'années en gros, certains ont trouvé très intelligent de vendre ce fleuron de notre industrie à General Electric, société américaine. Et tout d'un coup, on relance le nucléaire en France, et tout d'un coup, on se dit que eh bien, ce serait bien de récupérer ça. Alors, je ne connais pas les conditions dans lesquelles financièrement ça s'est produit. Ce qui est certain, c'est que effectivement, on annonce la reprise d'Arabelle de General Electric. Les syndicats, j'ai entendu ça récemment, les syndicats s'inquiètent quand même. D'une part, combien on a perdu dans l'histoire ? C'est quand même intéressant, c'est de l'argent public. Hein. Et quelles sont les garanties qu'on donne maintenant aux syndicats d'Arabel pour l'avenir ? Est-ce que demain, on ne va pas le vendre à Arabel aux Chinois ? Hein, voilà la question qu'on doit se poser.
Bon, ben.
Il faudrait peut-être préciser que le ministre qui a vendu les turbines s'appelait Macron, non ?
Alors, je crois que le ministre de, à l'époque de l'économie s'appelait M. Macron.
Oui, c'est ça. D'accord. Qui est à l'actuel président de la République.
Et maintenant, il est président de la République. Et voilà.
C'est un détail intéressant.
Mais c'est avec notre argent qu'il joue, là.
Oui, et juste avant la vente de ce matériel, le président directeur général avait été séquestré par la justice américaine et a été libéré juste après la signature des contrats. Hein,
c'est ça. Je ne connais pas toutes les difficultés du nucléaire. Il y en a.
Il y en a beaucoup.
Alors, troisième point, les petits réacteurs modulables dont on nous parle régulièrement, PRM ou SMR. Alors, il semblerait qu'ils soient envisagés d'en créer et leur avantage serait d'être installables sur le site même des industries, ce qui éviterait les problèmes de transport. En effet, il mesurerait 12 mètres de long, 3 mètres de large, un périmètre de sécurité de 100 mètres, un bijou. Alors, est-ce réalisable ?
Alors là, ce serait très long de d'énumérer toute l'intox qu'il y a autour de ces réacteurs-là, qu'on appelle SMR, qu'on appelle HTR, qu'on appelle différents noms, etc. Il y a, pourquoi on en parle tant ? C'est intéressant, c'est que le gouvernement a mis de l'argent sur la table, plus d'un milliard, peut-être plus, en tout cas, d'euros, à disposition de start-up pour se lancer là-dedans. Ah, évidemment, quand il y a de l'argent sur la table, tout le monde se jette dessus. Et c'est pour ça qu'on en parle sans arrêt dans les médias, où vous voyez débarquer des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une centrale nucléaire, ils ne savent pas ce que c'est que le nucléaire, et qui d'un coup se disent, nous, on va faire un réacteur comme ci, comme ça. Alors, il y a plein de variantes, hein. D'ailleurs, on s'y perd complètement. Tous les modèles qui sont, il y a au moins une cinquantaine de modèles différents qui sont envisagés. Donc, personne ne sait de quel modèle ils parlent. Et surtout, moi, j'ai rencontré des gens du nucléaire en France qui savent quand même de quoi ils parlent, hein, des gens de EDF ou d'Orano, et disent, ce sont des rigolos, ces gens-là. Sauf qu'on les invite sur les plateaux de télé. Et bien, du coup, ils déroulent leur tapis. Et puis voilà. Alors, personne ne leur pose la question, avec quel combustible on va faire ça, avec quels sont les risques, les déchets qu'ils vont générer, et ces questions-là ne sont pas du tout abordées. C'est la promo, quoi. Et là, récemment, par rapport à ce que tu dis, le périmètre de sécurité, tout le monde dit « Ah, mais c'est petit, donc ça n'a pas de risque. » En gros, c'est petite installation. Je regrette, l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, a dit la semaine dernière, dit « Quel que soit le modèle, ce sera pour nous considéré comme une installation nucléaire de base, c'est-à-dire un réacteur, un vrai réacteur nucléaire. Qu'il soit à 1000 MW ou à 100 MW, le périmètre de sécurité devra être considéré de la même manière. »
Bon, et puis il ne faudrait pas oublier qu'on est censé répondre à l'urgence climatique et qu'un projet qui est à peine dans les cartons, c'est certainement pas lui qui va répondre et qui va nous permettre de répondre à l'urgence dans laquelle nous sommes et qu'on a peut-être tendance un peu à oublier.
Alors, les plus optimistes parlent de 2035, les plus optimistes. C'est sans oublier qu'on a perdu la main pour construire des réacteurs nucléaires en France, on le sait très bien. Donc les plus optimistes parlent de 2035, alors qu'on sait très bien qu'il y a des urgences climatiques, et on va en parler après, qui vont tomber bien avant, bien bien avant. Donc ils arriveront trop tard, l'électricité produite sera trop chère, énormément trop chère. Elle est déjà trop chère aujourd'hui, mais alors là, ça sera encore pire. Invendable. Voilà où on va dans un mur, là, carrément.
Comme le disait Michel Rivasi, trop tard, trop cher, c'est absolument pas la réponse au problème et au mur qui est devant nous.
Tout à fait.
Et je veux juste citer Naharea, qui est donc un mini-réacteur, et l'objectif, recycler comme carburant les déchets nucléaire de très longue durée issu des centrales actuelles. Et c'est un réacteur à sel fondu dépourvu d'eau.
Totalement faux. Je suis désolé. Parlez-en à des spécialistes. Ce genre de truc, c'est du mensonge. Ces gens-là savent très bien que c'est totalement faux. Ce n'est pas les vrais déchets de nos réacteurs nucléaires. Ils ne vont pas être utilisés là-dedans. Ce n'est pas vrai.
Dernier projet, et ce n'est pas le plus rassurant, c'est celui de produire à Civaux, dans la Vienne, du tritium nécessaire au nucléaire militaire. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu, comme ça, un mélange du nucléaire civil et du nucléaire militaire? Jusqu'à récemment, les deux filières semblaient quand même assez bien séparées.
Alors, sur le papier, elles sont séparées, mais dans l'histoire, non, pas du tout. Historiquement, le nucléaire civil et militaire ont travaillé toujours la main dans la main. Dans le commissariat à l'énergie atomique, créé en 1945 par De Gaulle, il y avait vraiment deux branches, civile et militaire, dans la même institution, et qui ont toujours travaillé la main dans la main. Et les premiers réacteurs français nucléaires, qu'on appelait UNGG, uranium naturel graphite gaz, étaient totalement dual, c'est-à-dire fabriquaient de l'électricité pour EDF et fabriquaient du plutonium pour les militaires. Donc cette dualité civile-militaire, elle a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Et puis à partir des années 70, EDF a dit « ça ne nous intéresse pas, la production de plutonium, ça nous enquiquine plutôt, nous on va acheter la filière ». Donc la licence américaine pour faire des réacteurs qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont pour produire l'électricité. Et tout d'un coup, on nous ressort alors la vieille histoire, mais si on produisait du combustible pour des bombes atomiques? Alors ce ne sera pas du plutonium, cette fois c'est du tritium. Et là, on a annoncé que ce serait fait dans une centrale nucléaire à Civaux, relativement récente, qu'on allait mettre là-dedans des éléments qui seraient transformés en tritium par les flux neutroniques du réacteur. Sur le papier, ça marche, comme toujours dans le nucléaire. Hein, sur le papier, ça marche. Sauf que on n'a absolument pas donné tous les détails sur comment récupérer ce tritium, etc., etc. Et puis surtout, je dirais, l'autorité sur le nucléaire a rappelé que c'était une modification importante sur un réacteur qui nécessitait un travail d'évaluation. Et ça, il n'est pas fait encore. Hein.
Eh bien Roland, merci beaucoup pour toutes ces informations qu'on aimerait avoir le temps de développer davantage, mais on va faire une première pause musicale avec Bura Bura de Colette Mani.
Bura, 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 bura. Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Ibakusha. Rescapé du picadon, le picadon éclaire, boum! Bura, 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 bura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, bura, 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 bura. Les Ibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé Bura Bura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les Ibakusha comme invalides, au même titre que les leucémiques. Palpitations! Trouble de la mémoire. Bura, 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 bura. Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir. Les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux. Nous ont privés de bains chauds. Bura, 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 croyances japonaises, les guirlandes de papier suspendues au plafond peuvent favoriser la guérison des malades.
Ça nous rajeunit énormément d'entendre Colette Mani interpréter Bura Bura. Voilà. Bon, ben merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir programmé cette chanson que je n'avais pas écoutée depuis très très longtemps. Nous allons passer au deuxième interview aujourd'hui dans le cadre de cette émission Atomic Mac sur Radio Méga, RDOA et Radiola. Et nous avons invité Benoît Versa, ambassadeur de l'association Négawatt. Alors, en quelques mots, parce qu'on pourrait consacrer deux émissions pour découvrir Négawatt, quelles sont les deux, trois phrases les plus importantes pour présenter Négawatt et son objectif d'une décarbonisation et d'une dénucléarisation de la société?
Alors, Négawatt, c'est une association qui, depuis plus de 20 ans, rassemble des experts de terrain sur la thermique du bâtiment, sur la mobilité, sur le développement des énergies renouvelables, sur l'agroécologie, et qui a essayé de consolider une vision alternative du système énergétique français, en essayant de regarder comment est-ce que, en menant de manière assez systématique des mesures de sobriété, c'est-à-dire de re-questionner les besoins, pourquoi est-ce qu'on utilise l'énergie, de développer ensuite des approches d'efficacité, donc ça c'est les procédés industriels qui du coup pour un même rendu consomment moins d'énergie, et ensuite de regarder quel est le niveau d'énergie dont on a besoin encore, la quantité d'énergie qui reste, et comment est-ce qu'à partir de ce niveau-là de consommation, on peut développer les énergies renouvelables à la hauteur des enjeux.
D'accord, alors tout ça en tenant compte des besoins, de nos besoins, c'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas changer la façon de vivre?
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer pour permettre cette société qui nous permet tout simplement d'envisager que l'espèce humaine continue à pouvoir exister sur cette planète, puisqu'il y a cette notion aussi au-delà du climat, des autres enjeux environnementaux, de la biodiversité, des limites planétaires quelque part. Et donc, pour atteindre ce nouvel équilibre, il y a besoin de réduire de beaucoup nos consommations, sans pour autant, devoir envisager de ne pas se chauffer du tout l'hiver ou de ne jamais partir en vacances
ou d'aller vivre dans des cavernes.
De vivre dans des cavernes et s'éclairer.
La rengaine voilà. Qu'on entend souvent.
Donc il y a des transformations qui effectivement impliquent de faire des choix différents, collectifs, de donner des priorités à certains aspects et à d'autres, mais tout en du coup améliorant en fait la qualité de vie, les enjeux de la santé, la biodiversité. Donc c'est une transformation avec beaucoup de bénéfices.
Quand j'écoute votre réponse, j'ai l'impression que vous parlez un peu de décroissance.
Alors il y a plein de choses qui sont amenées à décroître dans ce scénario Négawatt.
Et d'autres à croître, je pense.
Et plein de choses qui sont amenées à croître également. Donc en fait, il y a effectivement des consommations d'énergie fossile qui doivent diminuer, le trafic routier qui doit diminuer, la surface moyenne des logements par habitant qui doit se stabiliser, et puis d'autres qui doivent se développer, comme le développement des énergies renouvelables, l'isolation des logements. Donc il y a en fait toute une évolution de la société qui va impliquer du coup des transformations aussi au niveau des salariés, parce qu'il y a des gens dans cette évolution-là qui ne vont plus occuper le même boulot. Donc des boulots, des emplois qui vont disparaître et puis d'autres qui vont être amenés à se créer. Et donc l'enjeu, c'est effectivement d'accompagner tout ce processus-là de manière assez rapide pour conserver un climat vivable.
Oui, puisque vous parlez de processus, qu'a été le processus de construction du scénario Négawatt? Comment vous partez de où pour aller où?
Alors comme j'ai dit, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans. Oui. Et donc il y a eu plusieurs itérations de ce travail-là prospectif. Qui n'est pas une boule de cristal, hein. C'est pas une description de ce qui va se passer. Ce scénario, il sert à identifier quelles sont les actions qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour que ce futur souhaitable il soit rendu possible, en fait. Et donc, ça a été au début une modélisation assez simple sur les grands ordres de grandeur des consommations d'énergie et puis les opportunités de réduction de consommation. Et du coup, petit à petit, en gros, il y a eu un scénario qui a été mené tous les 5 ans. Ce travail de modélisation, il a été de plus en plus robuste en intégrant différents paramètres comme les enjeux matériaux, les enjeux des emplois, l'équilibre aussi en termes de production et de consommation du système électrique pour s'assurer que ben, heure par heure jusqu'en 2050, on puisse répondre à la demande et satisfaire les besoins. Donc c'est vraiment aujourd'hui un travail extraordinaire qui n'a pas d'équivalent en termes de finesse et de caractéristiques systémiques de modélisation avec des milliers de paramètres. Voilà, c'est un gros travail scientifique.
Alors, c'est un travail scientifique sérieux. D'ailleurs, plusieurs partis politiques, qu'on ne nommera pas ici parce qu'on est en pleine période électorale, ont intégré dans leur programme le scénario négawatt.
Alors, il y a effectivement des...
On va pas les citer.
Des échanges, oui, il y a des échanges réguliers avec différents partis et l'enjeu de l'association, c'est effectivement de faire qu'au maximum, cette vision et les grands choix stratégiques qui en découlent soient appropriés par les acteurs et par les décideurs, et notamment à l'échelle nationale. Donc, il y a des rapprochements qui sont faits.
D'accord. Alors, on est quand même dans une émission anti-nucléaire, vous l'avez compris, entendu, qui est réalisée par l'association Arrêt du nucléaire d'Oran Mardèche. Avec le scénario des gigawatts, on va faire pour se sevrer du nucléaire?
Alors effectivement, c'est au même titre qu'on a un vrai besoin de se sevrer des énergies fossiles. Et ça, j'utilise beaucoup cette parabole.
Mais l'énergie nucléaire, c'est une énergie fossile.
Une énergie fissile, disons qu'au sens que...
Bah, elle est extraite de la terre, de minerais.
Ça n'est pas de la matière organique décomposée. Oui. Voilà, bon, et effectivement, c'est un petit peu technique. Mais donc, on a une dépendance qui est double, fossile et fissile. Et on a une dépendance au même titre que quelqu'un qui est drogué à la cocaïne a besoin en fait, de cette ressource-là. Parce que toute notre société est organisée autour de cette consommation. La problématique qu'on a aussi, c'est que les personnes les plus droguées, les plus dépendantes dans notre société sont bien souvent les personnes les plus riches et des personnes les plus riches qui ont aussi bien souvent le plus de capacité à influer sur nos décisions collectives. Et donc, on a un enjeu de faire évoluer ce paradigme-là pour pouvoir se passer et du nucléaire et des énergies fossiles. Et c'est le cas, effectivement, dans le scénario négawatt, où à travers la mise en œuvre systématique des actions de sobriété que j'ai mentionnées, avec de l'efficacité, on arrive en fait à couvrir l'ensemble des besoins énergétiques avec les énergies renouvelables.
D'accord. Y compris se sevrer du nucléaire.
Y compris tout à fait se sevrer du nucléaire. Alors, progressivement...
Vous avez un délai, hein, je crois que vous avez mis un délai il y a une dizaine d'années. On a d'ailleurs perdu 10 ans, mais bon.
Et absolument. Du coup, l'idée, c'est d'assurer que pendant toute cette période de transition, on continue à répondre aux besoins énergétiques des Français pour qu'ils puissent se déplacer, se chauffer, s'alimenter, etc. Dans le scénario négawatt, il n'y a pas une fermeture du jour au lendemain de l'ensemble des centrales nucléaires. Par contre, il y a une planification raisonnée pour... ne pas prolonger au-delà de 50 ans les réacteurs et s'assurer une décroissance progressive. Je crois que c'est en 2045 qu'on ferme le dernier réacteur dans ce scénario.
D'accord. Il se passe plein de choses dans le studio. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé. Donc, est-ce que... on a perdu 10 ans. Est-ce que c'est parce qu'il y a une non-volonté politique de mettre en place ce scénario ou une volonté politique de développer le nucléaire ? Comment vous le percevez-vous ?
Alors, un peu les deux. C'est-à-dire que malheureusement, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de positionnement sur notre parc nucléaire qui a été construit en l'espace d'une dizaine d'années, pour l'essentiel, un effort industriel énorme. Qu'est-ce qu'on en faisait ? Est-ce qu'on le prolonge ? Est-ce qu'on l'arrête ? Etc. Et donc là, effectivement, ces dernières années, il y a eu ce positionnement politique fort du gouvernement pour relancer massivement le nucléaire, et en parallèle on a effectivement, en termes de sobriété, on peut que constater que on n'est pas du tout dans les clous de réduction des consommations d'énergie qu'il faudrait atteindre. Et donc, du coup, on n'est pas du tout en train de mettre en place ni le scénario nucléaire, le scénario négaote, pardon, sur le volet économie d'énergie, ni sur le volet réduction de la production du nucléaire.
On ne va pas développer ce que je vais vous dire, mais pendant le confinement du Covid, on s'est aperçu qu'on arrivait à réduire significativement notre consommation d'énergie. On n'a pas, il n'y a pas eu de blackout. Voilà. Donc, il y a des possibles.
Il y a des possibles. Après, là, le Covid, ça a été une contrainte, en fait. Ça a créé des drames dans la société à plein de niveaux. Et justement, l'enjeu, c'est de planifier, de prendre des décisions collectives pour que ces transformations-là, elles ne soient pas subies, mais elles soient au bénéfice d'améliorer l'équité, la justice et l'environnement dans lequel on vit.
D'accord. En 2021, le RTE commande 6 scénarios. Et dans les 6 scénarios, il y en a un qui est assez proche du vôtre. Et plus rien. Voilà, c'est rendu dans les cartons, simplement tout nucléaire. On continue dans le mur, comme disait Michel Rivasi. Hein. Trop cher, trop long. Voilà. Hein, comment vous le percevez, vous, ça ?
Bah, effectivement, on est très déçus de l'absence de vision de tous les enjeux que vous avez mentionnés ici sur les problèmes que pose le nucléaire dans cette réponse aux enjeux climatiques, en termes de rapidité d'évolution du système énergétique, en termes d'enjeux de sécurité, en termes d'enjeux de coûts. Et pour toutes ces raisons-là, on trouve que c'est assez absurde de s'être lancé dans cette relance du nucléaire. Et effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce n'est pas possible techniquement, donc socialement, de mettre en place un scénario 100% énergie renouvelable, parce que ça a été démontré par des acteurs très différents, dont effectivement l'association Négawatt, mais RTE à travers son scénario. On peut également citer l'ADEME, qui a développé plusieurs scénarios, dont un où il n'y a plus de nucléaire en France qui est produit. Donc, et puis l'AIE également a des rapports qui vont dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a des transformations importantes pour permettre de se passer du nucléaire, mais les technologies existent et il y a un chemin qui est possible et souhaitable.
Oui, alors contrairement à ce qu'on nous a rabâché depuis 40 ans, voire plus, on ne veut surtout pas aller vivre dans des grottes ou hyper aménager avec toute la technologie qu'il faut pour notre bien-être, hein, c'est-à-dire utiliser la technologie au service des citoyens.
On veut. Alors, qui est on ?
Ah ben, nous voulons toujours vivre confortablement, peut-être en consommant moins. D'ailleurs, l'électricité que nous consommons, là, ici, depuis 1981 qu'existe la radio, on consomme peut-être 10 ou 20 fois moins d'énergie pour éclairer ce studio.
Effectivement.
Puisque la technologie a évolué.
Il y a des progrès qui sont de l'ordre de la technologie. Et il y a des progrès qui sont aussi possibles. C'est-à-dire que la technologie toute seule ne va pas pouvoir faire tout le boulot. Par exemple, sur la question de l'aviation. Typiquement, les améliorations technologiques, elles ne permettent pas d'envisager de répondre à nos objectifs climatiques sans questionner les distances que l'on parcourt en avion. Donc par exemple, dans le scénario négawatt, on continue à se déplacer en avion, mais avec des distances moyennes parcourues qui sont de l'ordre de la manière dont on se déplaçait dans les années 70. Et donc ça effectivement, ça re-questionne une société où on est assez bien ancré dans le « on va toujours plus vite, toujours plus loin », et on refuse de finalement se poser des limites. Et ces limites-là, et ben, du coup, on doit se les poser malgré tout, mais de manière collective. Comment est-ce qu'on répartit la possibilité de se déplacer, donner la possibilité aux jeunes de découvrir le monde? Voilà, comment est-ce qu'on régule ça, en fait?
Alors, je peux vous rassurer, dans les années 70, on vivait tout à fait bien. C'était l'âge de mes 20 ans. Et donc, ça va très bien. On va donner tout à l'heure le site pour contacter Négawatt. Et Dominique me fait des grands signes parce que...
Parce que maintenant, nous allons écouter le billet de Kim qui va nous parler du programme des candidats aux élections européennes. Voilà le billet de Kim. À toi.
Bonjour à toutes et tous. Je vais m'intéresser aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, aux élections européennes qui se tiendront ce week-end. Profitons de cette occasion pour écouter les propos des candidats et candidates représentant leur parti, et en particulier sur la question du nucléaire donc. Pour commencer, je ne m'appesantirai ni sur l'ex-Front National, ni sur Reconquête, le premier parti cité ayant été fondé par d'anciens nazis, par des tortionnaires comme Jean-Marie Le Pen, et défend aujourd'hui la priorité nationale, s'affiche ouvertement aux côtés de Vladimir Poutine, et a en troisième position sur sa liste l'ancien patron de Frontex, visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité, alors qu'il sévissait pour l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Quant à Reconquête, rappelons que son président Éric Zemmour a été condamné pour provocation à la haine raciale et injures racistes, provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane, ou encore injures homophobes. Commençons donc par Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise. Lors du débat du 14 mars sur Public Sénat, celle-ci demande la fin du marché européen de l'électricité. Si son parti souhaite une sortie du nucléaire en 2045, la tête de liste reste discrète sur ce sujet lors de cette campagne. Quant à Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes, celle-ci reconnaît que le nucléaire est une énergie décarbonée, mais estime qu'il faut surtout mener la guerre aux énergies fossiles et déployer les énergies renouvelables, les plus rentables selon elle. Passons au candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy. Le jeudi 23 mai, à Dijon, il tenait les propos suivants. C'est l'énergie qui permet de faire baisser les factures d'électricité des Français, aujourd'hui par la réforme du marché qu'on a enfin obtenue. C'est l'énergie qui nous permet de garantir notre sécurité d'approvisionnement. Monsieur l'eurodéputé, est-il bien raisonnable de parler de baisse de la facture d'électricité, alors que celle-ci a plus que doublé entre 2006 et 2023, d'après la Commission de régulation de l'énergie, et alors qu'EDF reste endetté à hauteur de 55 milliards d'euros. Continuons avec Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste, dans une interview au magazine Reporter. La rationalité nous oblige à accepter une part de nucléaire dans le mix énergétique. Moi, je ne veux pas mentir, je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit en mesure de se fixer une date pour le 100% renouvelable. Ça doit être la ligne tendancielle. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on doit se fixer des objectifs contraignants de fermeture de centrales. Je pense qu'en France, il y a eu une survalorisation du nucléaire comme étant la finalité et la réponse à tout. Et de l'autre côté, une tendance à faire du nucléaire un adversaire prioritaire. Moi, je ne le pense pas. L'adversaire, c'est le carbone. C'est beau comme du François Hollande à sa grande époque. Et finissons en beauté avec Léon Desfontaines, le candidat du Parti communiste au micro de France Inter.
Bien, l'Europe, c'est le quotidien des Français. C'est la hausse des factures d'électricité, c'est les classes surchargées, c'est les difficultés d'accès à la santé, c'est l'énergie et notamment la question du nucléaire qui est indispensable si on veut éradiquer le chômage, si on veut reconstruire des usines, si on veut soutenir nos agriculteurs, nos artisans. Eh bien, il faut produire de l'électricité et pour ça, il faut qu'elle soit décarbonée et produite en suffisance. Et donc, c'est le mix nucléaire renouvelable.
Le nucléaire, c'est l'énergie de l'avenir, c'est une énergie.
Ah, c'est l'énergie de l'avenir et c'est l'écologie de l'avenir. Je le dis, les militants anti-nucléaires d'ailleurs sont les écologistes du passé.
Là, je note que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qu'on en fait des déchets du nucléaire ?
Eh bien justement, aujourd'hui il faut prendre en conscience ça, donc aujourd'hui il faut bien évidemment les enterrer. L'énergie propre n'existe pas, l'énergie parfaite n'existe pas.
Les militants et militantes antinucléaires apprécieront.
Merci Kim pour d'horizons très éclairants. Je voudrais quand même t'apporter une petite contradiction. Marie Toussaint et les écologistes ne considèrent pas le nucléaire comme une énergie décarbonée. Mais nous allons continuer maintenant avec Georges qui va nous faire une chronique, sa chronique habituelle sur le tricastin.
Oui, c'est la chronique rubrique ABAC sur les actualités des centrales proches, donc la centrale de Cruas où il y a deux événements significatifs. Alors tout d'abord, on a un événement environnement publié le 22 mai. Et le 14 janvier 2024, les intervenants détectent un léger écoulement au niveau d'un raccord de tuyauterie de circuit appelé ARE, circuit d'alimentation en eau, des générateurs de vapeur sur l'unité de production numéro 3. Un diagnostic est réalisé confirmant l'écoulement et une réparation est programmée lors du prochain arrêt pour maintenance de l'unité de production numéro 3. Et bien, c'est programmé en août. Donc de janvier en août, à vous de voir. Et puis le 29 avril, lors d'une nouvelle intervention, les salariés constatent que l'écoulement est plus important avec un débit de 150 litres par heure. Le 13 mai, dans le cadre du traitement de la problématique, il est identifié que les effluents qui s'écoulent vers le circuit de récupération des eaux fluviales devraient, compte tenu de leur nature, être orientés vers le circuit de collecte des effluents non radioactifs du circuit secondaire, circuit sec. Oui. Alors, un traitement adapté, l'analyse des effluents montre la présence d'ammonium à une concentration de 0,29 mg par litre. En supposant de manière majorante que la fuite était de 150 litres par heure, Dès le 14 janvier, la quantité rejetée d'ammonium dans le Rhône aurait été de l'ordre de 140 grammes, soit très en dessous du seuil réglementaire annuel fixé à 12 000 kilos. Cet événement n'a pas eu d'impact réel sur l'environnement. Cependant, en raison du temps mis pour identifier et traiter les effluents issus de l'écoulement, la direction de la centrale de Cruas a déclaré cet événement le 17 mai auprès de la SN sous la forme d'un événement significatif pour l'environnement. Et mon commentaire, je dis que le Rhône peut-il absorber en plus de certains rejets industriels comme les PCB, ce Rhône peut-il absorber en plus donc de l'ammonium sans risque de pollution environnementale. Enfin, le 28 mai, un événement significatif de sûreté générique de niveau 1 relatif à une anomalie de conception identifiée lors d'un contrôle de maintenance préventive. Après une lecture attentive du texte, seul un événement de sûreté générique niveau 1 a été déclaré le 21 septembre 2021 pour les centrales de Tricastin et de Bugey. Toutefois, cet événement niveau 1 est bien publié dans les actualités de la centrale de Cruas-Metz. Comprenez comme vous voulez. La centrale du Tricastin. Déclaration d'un événement significatif sûreté numéro 1. Lors de la mise à l'arrêt d'un réacteur nucléaire, le numéro 2, le 5 mai 2024, à 12h53, suite à une injection d'eau froide trop rapide dans le circuit primaire, la vapeur à l'intérieur du pressureur s'est condensée trop rapidement, conduisant à une baisse de pression. Ainsi, la pression dans le circuit primaire a été de 22,2 bars pendant 20 minutes, alors que le seuil minimum autorisé par les spécifications techniques d'exploitation est de 23 bars. À 13h13, la pression remonte au-dessus des 23 bars et est de nouveau conforme. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté des installations. Toutefois, en raison du non-respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d'exploitation, la direction de la centrale du Tricastin a déclaré le 15 mai 2024 à l'ASN un événement significatif sûreté au niveau 1 sur l'échelle INES, qui en compte 7. Et mon commentaire, 20 minutes en dessous du seuil minimum de pression, sans risque pour la sûreté des installations, je m'interroge.
Merci Georges. Et maintenant très rapidement l'agenda de l'été, puisque notre prochaine émission aura lieu à la rentrée, au mois d'octobre. Donc le 5, 6 et 7 juillet, les journées d'études d'arrêt du nucléaire à côté de la souterraine, à les limites de la Creuse et de la Haute-Vienne, exposés, conférences, débats, ateliers, hébergements, dortoirs ou camping. Deuxième événement, contre les méga-bassines avec les soulèvements de la terre. Grande manifestation le 19 et le 20 juillet, mais du 16 au 21, le village pour la défense de l'eau et des terres. Table ronde, ateliers, formations, balades, concerts, spectacles. Le programme est détaillé sur les sites de https bassines non merci et lessoulèvementsdelaterre.org. Et enfin, le 16, 17, 18 juillet, quatrième édition des Burlesques, le festival de résistance aux projets toxiques d'enfouissement de déchets radioactifs CIGEO, à Saint-Amand-sur-Ornain, à 16 km de Bure, dans la Meuse.
Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous deux, à Benoît et à Roland d'être venus. Roland a l'habitude, peut-être, vous allez prendre l'habitude de venir souvent nous voir. Alors, vous retrouvez toutes ces informations du réseau Arrêt du nucléaire 2607 au 08 05 69 67 58. À la technique, Jean-Pierre. À la rédaction des billets, Georges et Kim. Et aussi Dominique pour les infos. Et aux interviews, Dominique et Gérard. Un grand merci à Roland Desbordes et Benoît Verzin. Atomic Mac est réalisé tous les lundis, les premiers lundis du mois. Prochain rendez-vous à la rentrée, comme l'a dit tout à l'heure Dominique.
Le lundi 7 octobre.
Le lundi 7 octobre. Cette émission est enregistrée à Radio Méga à Valence, rediffusée à RDOA à 10 les vendredis à 12h15 sur 101.7 et 107.5 et sur radiola.media. Merci et on communiquera le site de contact de, allez-y en vitesse,
negawatt.org, et on peut organiser des formations et des présentations grand public pour donner plus de détails à ceux que ça intéresse.
Merci beaucoup, voilà, CRIRAD, tout le monde connaît le site CRIRAD.org aussi. Merci, à très bientôt, salut à toi Jean-Pierre pour la technique.
En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter l'apport.